France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Un grand patron sur la sellette, Carlos Ghosn, est en garde à vue au Japon. Il fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Le PDG du groupe Renault, Nissan, Mitsubishi est accusé d'avoir masqué une partie de ses revenus. En ligne avec nous, Bernard Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Plusieurs syndicats de Renault se disent déjà inquiets. Ils parlent de traumatisme, de sidération. Le titre de Renault a perdu plus de 8% hier soir à la Bourse de Paris. Ceux de Nissan et de Mitsubishi ont chuté aussi ce matin à la Bourse de Tokyo. Cette affaire risque-t-elle de déstabiliser de manière durable et dangereuse le groupe ?
Oui, ça va déstabiliser le groupe et l'alliance, avec au niveau de l'alliance une inquiétude quant à la question de savoir comment elle pourra survivre à Carlos Ghosn, qui est le seul qui l'ait dirigé jusqu'ici. Ceci étant, il y a quand même des acquis de part et d'autre, et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en commun entre Renault et Nissan. On a entendu hier, côté français comme côté japonais, un certain nombre de réaffirmations de la nécessité de préserver l'alliance, et tout ceci devrait rassurer un tout petit peu les Renault.
Donc il n'y a pas de risque que l'alliance explose. En revanche, ça pourrait rebattre l'écart de l'équilibre entre les trois groupes au sein de l'alliance ?
Oui, bien sûr, il y a des ambitions de rééquilibrage côté japonais qui existent depuis longtemps et qui risquent de se manifester.
Oui, c'est pas un secret, ça.
Qui risquent de se manifester à nouveau. Donc là, il va y avoir effectivement un jeu assez compliqué et subtil pour préserver l'alliance et lui donner, je dirais, quelque chose comme une constitution, quoi, puisque aujourd'hui on avait, tout le monde le souligne à l'envi, un régime plutôt autocratique, où les arbitrages étaient plutôt rendus par cet homme, assisté certes d'un comité. Là, il faut effectivement arriver à définir des procédures qui rendront le gouvernement de cet ensemble un peu original, plus lisible, plus transparent et plus clair.
Le directeur général de Nissan estime que Carlos Ghosn a eu trop de pouvoir, je le cite, il a dit « c'est un problème que tant d'autorités aient été accordées à une seule personne ». Vous le pensez, vous aussi, il a réellement tous les pouvoirs ?
Chez Nissan, ça a peut-être été encore plus clair que chez Renault, puisqu'il est arrivé en sauveur. Il a obtenu effectivement beaucoup de pouvoir pour redresser l'entreprise, et puis ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Comme les années passent ensuite, il y a un système qui se forme autour d'un homme. Et effectivement, on a ça dans les grandes villes, quand le maire fait 5-6 mandats, il y a évidemment une difficulté à rendre compte quand on a à ce point la concentration du pouvoir dans les mains d'un homme.
Dans le secteur automobile, c'est le plus grand des patrons ?
Alors, ce qui est clair, c'est que c'est celui, et il le disait souvent, qui a eu la plus grande longévité. Et c'est vrai que ça, c'était pour l'entreprise, Renault et pour Nissan, un avantage d'avoir quelqu'un qui en avait vu d'autres, qui avait pu conduire assez durablement des dossiers parfois compliqués, comme le dossier de l'électrique, etc. Donc effectivement, il y avait des avantages et des inconvénients à conserver pratiquement 20 temps la même tête à la tête de Nissan et pendant presque 15 le même homme à la tête de Renault.
Et il avait réussi à faire de cette alliance un Renault-Nissan-Mitsubishi le constructeur numéro 1 au monde.
Alors oui, en même temps, c'est pas un constructeur, quoi. C'est ça qui est original, et c'est peut-être l'intelligence qu'il a eue de ne pas essayer de passer en force vers un groupe standard, un groupe très intégré, de respecter l'identité des partis, mais du coup, ça crée une formule qui est un petit peu difficile à manager, avec des tensions qui ne disparaissent jamais complètement malgré l'autocratie, et qu'il va falloir maintenant gérer d'une manière un peu plus réglée, dirais-je.
Et fort de ses succès, malgré ses ennuis avec le fisc, vous pensez que Carlos Ghosn peut rester à la tête du groupe ?
Moi, j'imagine mal, puisque sa mission était de mettre l'alliance dans une position où elle pourrait lui survivre, je vois mal comment il pourrait conduire cette mission-là si on veut plus le laisser rentrer chez Nissan.
Nissan, d'ailleurs, oui, qui propose sa démission, pareil chez Mitsubishi. Alors, chez Renault, c'est plus timide, on ne parle pas encore de démission, on se contente de dire que le conseil d'administration va se réunir. Il y a plus de gêne côté français ?
C'est-à-dire que je suppose qu'ils n'ont pas les éléments que les Japonais ont, et que par conséquent, c'est infiniment plus difficile de se prononcer, sachant qu'il faut être extrêmement malin, parce qu'il va y avoir, je me répète, mais une tension très vive entre les différentes parties à l'Alliance pour faire évoluer le pouvoir dans le sens souhaité par les Japonais, c'est-à-dire vers Yokohama, et pour éviter que ce ne soit le cas côté français. C'est un vieux classique maintenant pour nous qui observons cet attelage un peu compliqué.
Est-ce qu'on connaît des précédents ? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un grand patron comme ça soit arrêté ainsi ?
Arrêté non, hein, mais vous avez bien, on a tous en tête l'histoire Volkswagen, où on avait effectivement une concentration des pouvoirs très grande dans les mains de personnes qui étaient là depuis très longtemps, hein, et qui effectivement ont un jour dérogé aux règles. Hein.
Là, c'était pour des histoires de respect de normes anti-pollution, plutôt.
Oui, oui. Hein, c'était, mais ça correspondait à des phénomènes de difficultés, hein, les années passant à considérer le droit commun plutôt que le droit qui s'applique dans l'entreprise, quelque chose comme ça.
Il y a toujours du flou, hein, autour de la rémunération de Carlos Ghosn. Il fait vraiment partie des patrons les mieux payés au monde. Et est-ce qu'on sait combien il gagne ?
Ben, on a du mal, parce que si vous voulez, dans ces histoires-là, vous avez une partie qui est de la rémunération et puis une partie qui est une promesse de rémunération, ce sont les fameuses stock options. Et à ce moment-là, ben, on ne saura combien la personne va effectivement s'enrichir qu'au moment où il exercera ses stock options, en regardant le cours du titre au moment où il rachète et puis revend le titre. Quoi, hein. Donc il y a une espèce de difficulté. Il faudrait avoir toutes les années et savoir exactement quand est-ce qu'il a exercé ses stock options.
Bernard Julien, comme toujours, hein, dans ce genre de dossier, on peut s'interroger sur le contexte, essayer de voir s'il n'y a pas une deuxième lecture de cette affaire. Est-ce que quelqu'un avait intérêt à faire tomber Carlos Ghosn ?
Bah, d'évidence, si vous voulez, hein, on est dans une phase où il s'agit de donner à l'Alliance une nouvelle gouvernance. C'est Carlos Ghosn qui en avait la charge. Peut-être était-il en train de s'orienter vers un schéma qui ne convenait pas à tout le monde et que c'était ça peut être le bon moment, si vous voulez, hein, mais ces conjectures-là.
C'est-à-dire concrètement, c'est plutôt les Japonais. Il y avait plus de conflits avec les Japonais.
Voilà, hein, il peut y avoir effectivement une volonté des Japonais de mettre un terme à ce qu'ils peuvent percevoir comme un déséquilibre entre eux et Renault, hein, Renault qui a quand même 43% du capital et qui fait valoir ces droits-là, Nissan qui considère que ils font plus de volume et de profit, même si évidemment s'ils font plus de profit, c'est en partie parce que on avait décidé qu'ils iraient en Chine et pas Renault, et du coup ils ont et les volumes et les profits de la Chine, ce qui n'est pas reproché à Renault d'une certaine manière. Donc il y a effectivement des jugements très contrastés sur l'apport de Renault à l'Alliance et l'apport de Nissan à l'Alliance qui conduisent à ce que il y ait un certain nombre de récriminations latentes qui s'expriment probablement à travers cet épisode aussi.
Bernard Julien, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux et vous étiez l'invité du 5-7 d'Inter. Merci beaucoup.